Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero pour vous présenter ce journal de la Radio des Nations Unies. Au menu, le nombre de victimes en Irak de plus en plus alarmant selon l'ONU. Libération au Soudan des membres de l'équipage de l'hélicoptère du PAM. Visite du sous-secrétaire général aux droits de l'homme au Soudan du Sud. Et la situation des droits humains au Mexique. En dossier, la FAO vient en aide aux victimes des inondations au Malawi. Enfin, dans Fréquence Santé, augmentation du risque du sida en Crimée. En Irak, la mission des Nations Unies en Irak vient de publier les chiffres du nombre de morts et blessés pour le mois de janvier dans le pays. Selon la Manui, il y aurait 1375 morts, dont 790 civils et 2240 blessés, dont 1469 civils. Les provinces d'Anbar et de Diyala, ainsi que la région de Tikrit et de Salahuddin, où les plus lourds combats ont eu lieu, ont été les plus touchés. Eliana Naba, porte-parole de la Manui.
Ces chiffres sont de plus en plus alarmants. Ils sont encore plus élevés que les chiffres les plus élevés qui ont été enregistrés en décembre dernier. C'est absolument tragique, d'autant que le nombre des victimes civiles est toujours supérieur au nombre des victimes militaires, ce qui veut dire que ce sont encore une fois les civils qui paient le prix le plus lourd des conflits qui font rage en ce moment. Donc, les conflits n'ont pas cessé. Au contraire, dans certains endroits, ils ont augmenté d'intensité. Et il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore prises au piège, coincées dans les régions où il y a des combats. Et par conséquent, les obus, les combats de rue font naturellement des victimes civiles en premier.
Le programme alimentaire mondial est soulagé. Le PAM a pu récupérer dimanche les 6 membres de l'équipage de l'hélicoptère Mi-8, forcés de faire un atterrissage d'urgence au sud Kordofan la semaine dernière, alors qu'il effectuait un vol de Rumbek à Khartoum pour une visite technique de routine. Les membres de l'équipage sont sains et saufs et ont repris le chemin du Soudan du Sud. Ils comptent reprendre leurs fonctions humanitaires. Elisabeth Beers, porte-parole du PAM, revient sur cet incident.
Cet hélicoptère a dû atterrir sous la menace de tir. Peut-être que l'armée nord de libération du peuple soudanais a pensé qu'il pouvait s'agir d'un hélicoptère qui pouvait les menacer. Et une fois que l'équipage a fait part de son appartenance au programme alimentaire mondial, et avec l'intervention également d'un groupe qui s'appelle la Nouvelle Ligue des Femmes du Sud-Soudan, eh bien, nous avons pu les récupérer. Donc, l'incident est clos, ces personnes n'ont pas été détenues, mais elles sont maintenant revenues au Sud-Soudan pour continuer le travail, et nous verrons par la suite comment récupérer l'hélicoptère.
Soudan du Sud toujours, un an jour pour jour après sa visite dans ce pays, Ivan Simonovitch est de retour à Djouba. En janvier 2014, le sous-secrétaire général des Nations Unies aux droits de l'homme avait pu se rendre compte des violences et des atrocités de masse commises tant par le gouvernement que par l'opposition. Après plus d'un an d'affrontements, le juriste croate constate que le conflit, qui était au départ politique, a pris une dimension interethnique. Ivan Simonovitch, qui a confié au micro de Radio Miraya les objectifs de sa visite à Djouba, mais aussi à Malakal et Bentiu.
Il y a eu des rapports soumis par la composante des droits de l'homme de la mission des Nations Unies, la MINUS. Et bien sûr, nous allons continuer à surveiller et informer. Mais maintenant, c'est l'occasion de discuter avec le gouvernement de la situation ainsi que des moyens de l'améliorer. J'ai également eu l'occasion de discuter avec l'opposition à Addis Abeba. Tous deux, le gouvernement et l'opposition, me disent qu'ils travaillent dur sur l'accord et j'espère que cela aboutira. Je pense que la responsabilité pour les violations est un élément très important. C'est une façon de prévenir les violations futures et la manière de briser le cycle de la violence et de l'impunité dans le pays.
L'insécurité en République centrafricaine a provoqué le retour spontané en République démocratique du Congo d'environ 2900 réfugiés congolais. Ces réfugiés vivent à présent dans des conditions difficiles à Ango, à plus de 500 km au nord de Kisangani, dans la province orientale. Hébergés dans des familles d'accueil, ces personnes manquent de tout. Albert Kambembo, responsable de la Commission nationale pour les réfugiés à Ango, note qu'une assistance du gouvernement et des humanitaires serait un salut pour ces réfugiés. On l'écoute.
Nous ont parlé des quelques activités qu'ils veulent mener, entre autres l'agriculture, il y a pêche et élevage, il y a couper, coutir, il y a exploitation d'huile de palme, et enfin, c'est là qu'ils veulent faire les petits commerces. Donc, si le gouverneur qui a cette bonté-là, qui veut aider ses compatriotes-là, pourrait nous appuyer dans ce sens-là, que cette activité puisse mener en faveur des compatriotes, vraiment, ça sera une bonne chose. Pour les gens de bonne volonté, les ONG, d'autres humanitaires qui ont les soucis-là d'aider la population congolaise qui partage tout avec les étrangers qui sont ici et ils regagnent au pays, ils n'ont rien. Si les gens de bonne volonté pourraient aussi venir en aide à cette population-là.
La situation des droits humains du Mexique est sous le feu des projecteurs ce lundi à Genève. Le Mexique, qui présente son rapport tant attendu à la 8e session du Comité sur les disparitions forcées, un rapport qui a nécessité 2 ans de gestation, et ce alors que le pays fait face à de nouvelles pressions pour régler le problème après la disparition de 43 étudiants dans la municipalité d'Iguala, dans l'état de Guerrero, en septembre dernier, au cours d'opérations impliquant des policiers. Emmanuel Deco, président du comité des disparitions forcées, revient sur l'importance du rapport mexicain.
La présentation publique du rapport du Mexique, qui est attendue depuis longtemps par le comité, depuis plus de 2 ans, marque ainsi, dans les circonstances dramatiques que l'on sait, une étape décisive pour la pleine mise en œuvre de la Convention à travers le droit à la vérité, le droit à la justice et la lutte contre l'impunité.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur la situation au Malawi et l'appel d'urgence lancé par la FAO après les graves inondations que connaît le pays. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui souligne que les agriculteurs du sud du pays, l'un des plus pauvres au monde, ont vu l'eau dévaster leurs habitations, emporter les cultures et noyer les quelques animaux qu'ils avaient. Pour en savoir plus, Jérôme Longuet a joint Florence Roll, la représentante de la FAO au Malawi.
Pour une partie de cette population, leur vie a brutalement changé parce qu'ils ont tout perdu. Donc les maisons ont été totalement soit submergées, soit emportées. Et avec eux, tout ce qu'ils avaient. Donc pour cette partie qu'on appelle les déplacés, parce que du coup ils ont dû partir pour trouver un abri. Donc ils sont partis soit chez de la famille, des voisins, donc de la communauté qui en prend certains à leur charge. Et puis ils sont partis dans les camps, c'est-à-dire sous des tentes, que l'UNICEF fournit, que le gouvernement fournit, que les ONG fournissent, dans les écoles, dans les églises, etc. Donc pour cette population, la situation est bien sûr très difficile et donc une nécessité urgente d'aider cette population à replanter. La chose positive dans cette histoire, c'est que ces inondations sont arrivées en début de saison agricole. Normalement, la saison des inondations est février au Malawi, alors qu'ils commencent à planter en novembre. Cette année, les pluies ont commencé fin décembre, et donc ils venaient juste de planter. Donc le maïs était entre le stade végétatif et la germination. Et donc, il y a encore une petite fenêtre pour replanter. Donc, si on arrive à apporter un soutien mais quasiment immédiat, on se donne aujourd'hui comme date limite la mi-février pour les soutenir avec des intrants agricoles pour leur permettre de replanter.
Ça, c'est pour les cultures. Est-ce qu'également les troupeaux ont été particulièrement affectés? Et comment vous faites, vous, à la FAO, pour venir en aide donc aux populations sinistrées?
Le Malawi n'est pas un pays d'élevage. Si vous le comparez, par exemple, à l'Afrique de l'Est, comme l'Éthiopie, etc., mais les petits ménages, les gens vulnérables ont quelques poulets, ceux qui sont un peu mieux ont une chèvre, etc. Alors là, c'est excessivement difficile à évaluer. Donc, combien de têtes de bétail ont été emportées par les eaux ou noyées? Mais certains ménages, dans ceux qui ont été affectés, ont en plus perdu leur bétail. Donc la première chose quand même, c'est de chercher des financements. La FAO elle-même est en train de mettre en place un mécanisme pour pouvoir acheter des intrants, c'est-à-dire semences, mais également petit élevage. Parce que ben, le petit élevage, ça permet tout de suite d'avoir quelque chose et en plus de diversifier l'apport alimentaire. Le temps de récolter le maïs ou la patate douce, il y en a pour 3 mois. Donc on va essayer de faire un mixte. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a beaucoup d'ONG sur le terrain au Malawi, énormément, et tout le monde est en train de se mobiliser pour essayer de répondre à ces inondations. Et les ONG sont beaucoup aussi en train d'essayer de reprogrammer dans leur projet de développement une partie des fonds pour justement subvenir aux besoins de ces ménages les plus affectés.
Alors justement, quel est le montant de l'aide que peut apporter la FAO? Et on le rappelle, en gros, c'est une aide d'urgence.
C'est une aide d'urgence qui a été évaluée à 16 millions pour le secteur agricole, hein, uniquement. Le plan total est de 81 millions. Et aujourd'hui, entre tous les acteurs, les partenaires du développement du secteur agricole, on va à peu près arriver à apporter à 1 million. Donc évidemment, un besoin de financement encore très grand.
Fréquence santé.
Cette semaine, notre invité est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le VIH-Sida en Europe orientale et en Asie centrale. Michel Kazatchkin regrette que depuis l'annexion de la Crimée par la Fédération de Russie, les autorités locales ont mis fin au programme de traitement de substitution aux opiacés destinés à réduire les risques d'acquisition du virus du sida. L'envoyé spécial souligne aussi qu'en à peine 10 ans, le nombre de personnes porteuses du VIH-Sida dans la Fédération de Russie est passé de 170 000 à 1,2 million de personnes. Le docteur Kazatchkin est interviewé par Jérôme Longuet.
C'est pratiquement la seule région du monde où l'épidémie de sida continue de croître et elle croît à une vitesse particulièrement importante. Et de plus, l'accès au traitement est très en dessous de ce qu'il est dans les autres régions du monde. Donc la situation est inquiétante. Elle est inquiétante et les contextes, évidemment, sont différents en Russie, en Ukraine et dans les deux régions singulières qui sont la Crimée, après son changement de statut, et la zone de conflit dans l'est de l'Ukraine, où les médicaments du sida, de la tuberculose et des traitements substitutifs pour les usagers de drogue sont sur le point de s'arrêter du fait de l'impossibilité de les amener à Donetsk et à Lugansk depuis Kiev.
Vous faites référence à la méthadone, donc à ces différents produits qui permettent aux personnes donc, qui avaient recours de survivre et de vivre dans de meilleures conditions. Toutes ces politiques ont été remises en cause, en gros, par les autorités qui ont annexé ces régions. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire quelque chose pour changer cette attitude, notamment des autorités russes en Crimée et dans l'est de l'Ukraine?
Écoutez, c'est difficile. La situation en Crimée et dans l'est de l'Ukraine est différente, puisque dans l'est de l'Ukraine, il s'agit d'une zone de conflit où l'on ne peut pas arriver actuellement parce qu'il n'y a pas de corridor humanitaire, alors que dans la Crimée, il s'agit d'une partie de l'Ukraine qui est maintenant sous administration de la Fédération de Russie et que dans la Fédération de Russie, le traitement substitutif, comme on l'appelle, par la méthadone, est illégal et n'est pas reconnu, et ce, à l'encontre de toutes les recommandations des Nations Unies, et en particulier des 3 agences concernées, que sont l'Organisation Mondiale de la Santé, l'ONU-SIDA, et le Bureau des Nations Unies contre les drogues et le crime, UNODC. Donc malgré ces recommandations, la Russie est très opposée, parce que c'est son interprétation des conventions internationales. Elle est opposée au traitement par la méthadone, qui pourtant a fait la preuve de son efficacité chez des millions de personnes à travers le monde. Dans nos régions, et en France en particulier, il n'y a pratiquement plus de personnes qui s'injectent des drogues, qui s'infectent par le virus du sida, alors que c'est 70% des cas cumulés du sida en Russie qui surviennent chez des toxicomanes ou leurs partenaires. Et c'est quelque part 45% des nouvelles infections qui continuent de survenir chez les gens qui s'injectent des drogues. Donc c'est pour moi une situation incompréhensible. Et ce que je dénonce publiquement, en parlant également de ce que les malades qui étaient sous traitement substitutif en Crimée ont dû, dans l'espace de 4 à 6 semaines, interrompre leur traitement avec le changement de régime légal et administratif ce qui a généré beaucoup de souffrance et ce qui a causé malheureusement un grand nombre de décès.
Et c'est ainsi que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.